auditeurs, auditrices de Radio Locale FM, bonjour. Et puis bonjour aussi évidemment à celles et ceux qui écoutent en podcast, en ligne ou via des applications ou que sais-je. Bonjour tout le monde en fait. Alors je suis La Petite Blanc et je vous souhaite la bienvenue dans ce 80e épisode de Du Poil Sous les Bras, le dernier de la saison. Mais rassurez-vous, Du Poil Sous les Bras reprendra en septembre pour une 9e saison parce que je n'arrêterai pas de sitôt d'avoir envie de partager avec vous des expériences et des savoirs. Et notamment, vous le savez, c'est un peu mon dada, j'essaie de partager des connaissances issues des sciences humaines. Alors pour Du Poil Sous les Bras, eh bien je lis des livres que je n'aurais jamais dû lire. Ce sont des livres dont on ignore l'existence, à moins d'être chercheuse, universitaire ou quelque chose dans ce goût-là. Par exemple, si je vous dis, je viens de voir un livre qui s'appelle « Sous les verrous, une histoire sociale de la prison en France dans le premier XXe siècle ». A priori, vous n'allez pas sauter au plafond. Votre enthousiasme sera modéré, mitigé même, voire inexistant. Eh bien moi, quand je lis ce titre, je me dis « Waouh, génial !» Il y a quelqu'une qui un jour s'est dit « Tiens, je vais étudier l'histoire sociale de la prison au début du XXe siècle ». Eh bien moi, ça m'intrigue. Et j'essaie d'imaginer cette personne. Je me dis « Ah, ça doit être quelqu'un qui, je sais pas, qui a raté un concours, il restait plus que ce sujet-là, et bah c'était pour elle. » Ou alors elle a perdu un pari avec des amis lors d'une soirée un peu trop arrosée. Non, vraiment, ça m'intrigue. Je me dis « Mais qui sont les gens comme elle ?»
Les gens comme moi, c'est des gens qui adorent la radio. Et je crois que j'aurais même pu en faire mon métier. Et même pour tout te dire, j'avais commencé à faire des recherches sur les historiens et la radio tellement c'était ce médium-là qui m'intéressait. Et les gens comme moi écoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio. Alors maintenant, j'ai une vie un peu avec beaucoup de contraintes familiales et professionnelles, mais dès que je peux, j'écoute la radio. Quand je cuisine, quand je suis en voiture, bref. Voilà. Et les podcasts. Et j'adore les podcasts. Donc les gens comme moi, c'est plutôt des gens très heureux d'être interrogés à un micro de radio aussi.
Alors les gens comme elle aiment la radio, ok, cool, mais ça n'explique toujours pas pourquoi elle se passionne pour des sujets qui n'intéressent, a priori, pas grand monde. Je dis a priori parce que si vous mettez de côté vos a priori, si vous ouvrez vos chakras et que vous éteignez la télé, peut-être que votre cerveau disponible se posera LA question, la seule et unique question qui vaille, qui est « Est-ce que mieux comprendre le monde n'est pas toujours intéressant ?» Eh bien moi je crois que oui. Alors, bonjour.
Bonjour, je suis Elsa Génard, je suis historienne et je suis historienne des prisons. J'ai fait un livre sur la prison, mais je dirais que je suis aussi historienne plus largement des enfermements et des routines institutionnelles et que je suis aussi une historienne de collectif parce que j'adore travailler avec d'autres historiens et historiennes. Et j'ai fait un livre avant, le livre dont on va parler plus aujourd'hui, avec d'autres historiens et d'autres historiennes, d'autres institutions que la prison, où on parlait beaucoup de routine et de sanctions.
Elsa Génard a publié aux éditions de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, un livre intitulé « Sous les verrous, une histoire sociale de la prison en France dans le premier XXe siècle ». Et sans plus attendre, nous allons voir avec Elsa pourquoi c'est très intéressant de se pencher sur cette histoire et ce que cette histoire dit de notre société, celle d'hier, mais aussi celle d'aujourd'hui.
La petite blanc dans du poil sous les bras.
Ah, évidemment, vous me connaissez, j'ai commencé par demander à Elsa Génard pourquoi, comment elle est devenue historienne des prisons.
Alors, je suis devenue historienne des prisons. C'était pas du tout une évidence. J'avais commencé par faire d'autres recherches. Et en fait, c'est une lecture. Donc, c'est d'abord un rapport à un livre qui est Michel Foucault, Surveiller et punir. Donc, un livre qui est apparu en 1975, donc bien avant la période où moi j'ai fait mes recherches, mais qui est un classique de l'histoire de la prison. Et en fait, j'ai lu ce livre quand j'étais étudiante, et sans du tout savoir ce que ça allait me faire. Et en fait, j'ai été frappée, parce que c'est la première fois, ça paraît naïf de le dire, mais c'est la première fois que j'ai pensé vraiment à la prison. Et surtout, je me suis dit que la prison avait une histoire, alors qu'elle m'apparaissait comme une évidence dans la société dans laquelle je vivais en tant qu'étudiante. Et de me rendre compte qu'elle était le produit, qu'elle a été construite en fait, et qu'elle n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, ça j'ai trouvé que c'était vraiment fascinant comme question. Et c'est au moment où, donc pendant mes études, où j'ai fait un master et je devais choisir un sujet de recherche en M2, et je me suis dit en fait c'est cette lecture-là qui m'a le plus accrochée depuis 2 ans. Et j'ai envie de voir à quoi ça ressemble des archives de prison, qu'est-ce qu'on pourrait y trouver et en quoi moi je pourrais apporter quelque chose à cette histoire pour mieux comprendre aussi pourquoi aujourd'hui la prison elle est aussi évidente comme manière de punir et pourquoi on n'arrive pas du tout à s'en défaire. C'est un horizon indépassable quand on parle de sanctions.
Pour moi, c'est absolument essentiel ce que vient de dire Elsa. Si vous ne devez ne retenir qu'une chose de cette émission, c'est celle-ci. La prison n'est pas une évidence, selon les époques, les sociétés. Il y a ou non des prisons, mais il faut questionner l'existence même de la prison. Les personnes dont le seul argument est « Ah, ça a toujours été comme ça !» ou « Bah non, il n'y a pas d'autre solution !» hashtag Margaret Thatcher. Eh bien, ces personnes-là se trompent doublement. Non seulement elles sont ignorantes de l'histoire en général, ou pire, quand elles connaissent l'histoire, c'est qu'elles la nient consciemment. Et en plus d'être ignorantes de l'histoire, elles sont ignorantes de la créativité et de la diversité humaine. Parce qu'il y a mille et une façons de punir, de mettre à l'écart, d'enfermer, ou de trouver, pourquoi pas, d'autres solutions pour rendre la justice. La prison est parfois une des solutions envisagées et mises en place. Et d'ailleurs, la prison, ça n'existe pas. En vrai, il y a des prisons.
Oui, je pense que le pluriel, c'est très important dans ma question d'historienne, parce que la prison comme institution, on en parle beaucoup et il y a énormément de discours sur la prison. Et sur ce qu'elle représente, les attentes qu'on a vis-à-vis d'elle. Et pour reprendre ce fameux Michel Foucault dont je parlais, sans le citer de long en large, mais quand même, il parle de technologie bavarde. Et c'est vrai que la prison, on en parle, ça suscite énormément de paroles, et des paroles qui peuvent aussi créer un discours un peu généralisant, ou qui peuvent donner l'impression qu'on sait ce que c'est que la prison. Et en fait, dans la vie, il n'y a pas une prison, mais il y a des prisons et des contextes très différents d'emprisonnement. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est de comprendre en fait que les expériences carcérales, elles ne se ressemblent pas en fonction de qui on est, où on est, ce qu'on a fait avant, les ressources que l'on a en prison, comment on se présente en prison. Et toutes ces petites choses font que le rapport à la prison, il est pluriel et il est aussi très inégalitaire. Et donc c'est ça qui m'a intéressée, c'est de penser la diversité des formes d'enfermement dans l'histoire et de comprendre que derrière le mot prisonnier se cachent en fait beaucoup de gens, beaucoup de femmes et d'hommes qui ne sont pas les mêmes. Et c'est pas parce que ils partagent une condition commune, à savoir être derrière des barreaux, qu'ils vont avoir le même rapport à leur enfermement.
Les expériences carcérales qu'Elsa Génard a étudiées sont très riches d'enseignements. Là où Foucault parle du bavardage autour des prisons, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, le bavardage était une des premières causes de sanctions en prison. Et oui, la prison vient sanctionner des comportements extérieurs, mais elle est aussi source de sanctions en interne. Ce qui fait d'ailleurs qu'à l'époque, on savait quand on rentrait en prison, mais parfois pas quand on sortirait, car la sortie n'était pas tant une suite logique de l'entrée en prison, mais plutôt un horizon d'attente. Jolie formule de l'historien Reinhard Koselleck pour décrire comment penser l'espoir de la sortie était une part centrale de l'expérience pénitentiaire. Une expérience qui va s'avérer très différente selon le type de prison dans lequel on est.
Oui, en effet, en fait, derrière le mot prison, il y a des typologies d'établissements très, très différents. En fait, notre carte pénitentiaire, hein, elle est héritée d'un moment important, la Révolution française, qui a un peu instauré les principales catégories d'établissements, en tout cas qui vont perdurer jusqu'à la fin du XXe siècle, à savoir des prisons départementales. Donc ça va être des prisons pour courte peine. Alors soit pour des personnes en attente de jugement, c'est ce qu'on appelle une maison d'arrêt, soit pour des condamnés à des courtes peines inférieures à un an, et c'est ce qu'on appelle des maisons de correction. Et au-delà de un an, au début du XIXe siècle, se crée une nouvelle catégorie d'établissements qu'on appelle les maisons centrales, qui dépendent directement de l'État et qui vont être développées sur le modèle un peu des manufactures. Des manufactures parce qu'on fait travailler beaucoup de personnes et ça doit être des prisons qui doivent être aussi rentables d'un point de vue économique. Donc il y a ces deux grands types de prisons, courte peine, longue peine. Et en fait, si on se place après à l'échelle d'un territoire, il y a toutes les différences de taille, d'architecture qui viennent aussi apporter encore plus de diversité, des modèles carcéraux différents. Pour une grande partie des prisons pendant tout le 19e siècle et une grande partie du 20e, c'est en fait des lieux où il peut y avoir des dortoirs communs et d'autres prisons, par contre, qui sont fondées vraiment sur le modèle cellulaire, avec vraiment cette image que l'on associe maintenant fortement à la prison, d'une personne en cellule, normalement seule. Par exemple, Fresnes, c'est une des prisons que j'étudie, c'est ce modèle cellulaire par excellence. Alors que les maisons centrales, en fait, sont des lieux où les espaces communs sont très importants dans la vie quotidienne. Et donc, c'est pas forcément les prisons n'isolent pas forcément individuellement toutes les personnes qui s'y trouvent à cette époque.
Il y a une matérialité de l'enfermement. Elsa Génard en parle très bien. Elle dit « c'est matériel, la prison, c'est un régime punitif, de privation, où se jouent des rapports de force asymétriques et où il y a un dépouillement matériel qui fait partie de l'expérience déjà à l'époque. Cette époque, d'ailleurs, il faut en dire un mot, parce que qui parmi vous a déjà entendu l'expression « premier 20e siècle » à part dans cette émission, bien sûr.
Moi, mon premier 20e siècle, c'est en gros des années 1910 aux années 1930. Peut-être qu'il y a des gens qui prennent la Seconde Guerre mondiale. Enfin, disons que c'est pas un terme qui renvoie à un imaginaire fort, par exemple, comme les années folles ou comme la Belle Époque. C'est une sorte de longue période. Pour moi, la rupture, c'est plutôt la Seconde Guerre mondiale, quoi. Dans l'histoire de la prison, si je caricature un petit peu, mais il y a un grand 19e siècle qui est vraiment le moment où on déploie cette nouvelle prison pénale et qui au départ est portée vraiment par une utopie, cette idée qu'on va pouvoir, avec la prison, véritablement transformer la société, transformer l'individu, que c'est possible de rendre meilleur. Et ça, c'est tout l'idée de la discipline, hein, qui va permettre de transformer, de corriger des gens. Et ça, c'est une utopie qui va assez vite laisser la place à ce qu'on appellerait un pessimisme carcéral et la réalité carcérale, à savoir en fait que ça ne rend pas forcément meilleur, que ça crée énormément, pour le coup, de problèmes en tout genre, de salubrité, d'hygiène, de mortalité, d'insertion. Et mais ça, c'est le 19e siècle, disons, qui est vraiment porté par cette idée de on va construire un nouveau modèle de peine. Et donc, c'est un siècle où on construit des prisons. Et après, il y a l'après-1945 qu'on connaît bien aussi, enfin, mieux, parce que les sociologues s'intéressent beaucoup à la prison après cette période-là. Donc, les sociologues ont aussi beaucoup enquêté sur les prisons, particulièrement aujourd'hui. Et c'est aussi un moment où on refonde la prison sur un discours d'humanisation. On est après la Seconde Guerre mondiale, il y a une grande réforme qui est adoptée, ce qu'on appelle la réforme Amor, du nom du directeur de l'administration pénitentiaire, et qui dit, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, il faut qu'on repense un modèle carcéral qui permette la réinsertion. Et on est encore dans ce modèle-là aujourd'hui. Et il y a une période entre les deux où on ne sait pas très bien ce qui se passe en prison, et c'est aussi pour ça que moi, j'ai voulu faire ce travail d'histoire. Et c'est une période très bizarre pour nous, parce que les prisons connaissent un certain vide. Il y a moins de prisonniers qu'avant. Il y a une sorte de baisse tendancielle de la population carcérale à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, bon, avec quelques pics parfois, mais c'est une baisse continue comme ça. Et on se retrouve dans les années 20-30 à avoir des prisons vides ou alors des établissements dont on se dit qu'il va peut-être falloir fermer les portes parce qu'il n'y a plus assez de prisonniers. Et donc c'est un peu une question qui nous paraît bizarre aujourd'hui parce qu'on est complètement... Enfin, on ne pense à la prison que par le problème de la surpopulation carcérale. Et je trouvais ça intéressant de regarder comment fonctionnait une institution au moment où ne se pose pas le problème que nous, on connaît aujourd'hui, à savoir la surpopulation carcérale. Est-ce qu'on en a profité pour faire quelque chose ou est-ce que les problèmes persistent? Et surtout, je me suis demandé, qu'est-ce qui s'y passe? Puisque jusqu'à présent, en histoire, on avait dit qu'il ne se passait pas forcément grand-chose dans les prisons à ce moment-là, qu'il y avait une forme d'immobilité. Et l'immobilité, ça marche bien avec la prison, parce que on imagine bien que ce sont des lieux qui rendent immobiles. Donc, mais moi, je me disais, comment c'est possible que sur 40 ans, il ne se passe rien en prison? Et donc, une de mes questions, c'était aussi de comprendre, bah, certes, il n'y a peut-être pas de réforme pénitentiaire, peut-être qu'on ne repense pas un modèle de prison, mais est-ce que pour autant, il n'y a pas des transformations sociales qu'on pourrait voir dans cet espace?
Pas de réforme importante début 20e dans les prisons. Les règles sont encore largement celles du Code d'instruction criminelle de 1808. Mais on n'est plus non plus dans l'utopie de la prison qui rendrait meilleure. Ça, on a compris que ben non, ça marche pas. Par contre, on est toujours dans un schéma récompense-sanction. La prison vue comme un institut de moralisation. La libération doit correspondre à, je cite, l'amélioration morale de l'individu. Vous m'en direz tant. D'autant que les sanctions à l'intérieur de la prison sont un peu à la tête du client, ou plutôt en fonction des qualités morales des directeurs de prison. Voilà, voilà. Une chose m'étonne aussi en lisant Sous les verrous, c'est la baisse de la population carcérale qui ne semble pas liée à la Première Guerre mondiale qui, pourtant, aurait pu nous faire penser que, à ce moment-là, on allait libérer les détenus pour les envoyer à l'armée.
Alors non, la baisse, elle est en fait le résultat, je pense, de facteurs nombreux. D'abord, c'est le résultat de politiques pénitentiaires. En fait, il faut s'imaginer qu'on est dans une période, donc sous la Troisième République, où l'archipel pénitentiaire, ce ne sont pas que des prisons, c'est les prisons et les bagnes. Donc il y a une partie de la population condamnée qui est envoyée aux bagnes. Donc ça explique une partie des flux. Hein. Après, je pense que une des choses importantes, c'est que d'autres peines vont se développer à ce moment-là, notamment les peines d'amende, qui se substituent en fait aux plus courtes peines. Hein, même si la prison reste encore utilisée pour des petites durées à cette époque, hein, 6 jours, 15 jours, 1 mois. Mais on va aussi pratiquer de plus en plus l'amende. Enfin, les juges vont utiliser de plus en plus l'amende. Et après, il y a d'autres dispositifs aussi élaborés par les républicains de la Troisième République, qui sont par exemple les libérations conditionnelles, donc qui vont aussi participer à favoriser des libérations anticipées, donc limiter la durée des peines. Mais en fait, pour tout vous dire, c'est compliqué de savoir exactement pourquoi il y a une baisse. C'est lié à des pratiques judiciaires en amont, parce qu'en fait, la prison, c'est un peu le bout de la chaîne. Et donc, c'est les filtres avant, en fait, qu'il faut étudier pour comprendre pourquoi ça baisse. Acting stupid, yeah, I'm acting stupid. I ain't got nothing to prove, bitch, yeah. I'm acting cupid, trying to shoot my arrows, man. I'm Sagittarius, rising when I'm coming. But I see you running, is it cause I'm Scorpio? Is it my moon in Virgo? Maybe it's just my ego, but who knows? I don't know, do you know that I would get down on the floor like a hoe for you though? Shit is nice. It just makes no sense. It just makes no sense. Baby, this is nonsense. Baby, you are nonsense.
stumble and I battle. Don't understand me, no babble. Wanna ride in with no saddle. Wanna please you, you know that you're my equal. You make my legs go feeble, hit me like a torpedo. Don't let mommy know I'm ready to overflow. You make me wanna explode. It just makes no.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Coucou les politiciens, les politiciennes, vous devriez lire Sous les verrous d'Elsa Génard, ça donne des pistes de ce qui a été mis en place en France à d'autres époques pour réduire les taux d'occupation des prisons. Mais déjà, pour réduire le nombre de prisonniers, il est intéressant de regarder quels sont les crimes et délits qui envoyaient à l'époque les gens en prison, quelles étaient les causes des mises à l'écrou. Tiens, d'ailleurs, au passage, ce terme écrou vient de escrouer, qui désignait un rouleau écrit, un écrit, et ensuite une pièce administrative écrite. Et les registres pénitentiaires, registres d'écrou, étaient tellement bien faits que ce terme écrou en est venu à désigner l'incarcération même. C'est fou, non? Bref, revenons aux raisons qui poussent à l'écrou.
Oui, alors la question des crimes et des délits qui mènent à l'incarcération, elle est complexe parce qu'en fait, ça dépend des prisons qu'on regarde. Il faut d'abord dire que les types de délits principaux restent à ce moment-là ce qu'on appelle des infractions à la propriété, et donc en majorité le vol, et toutes les formes d'escroquerie, d'abus, donc voilà, tout ce qui touche au bien et qui a été, hein, depuis le 19e siècle, l'objet d'une forte répression, la répression sur les biens. On a des infractions contre les personnes aussi, mais qui ont tendance un peu à baisser au cours de la période, mais qui restent aussi présentes. Alors, les homicides ne sont pas du tout les catégories les plus fréquentes, sauf si on regarde les très longues peines, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer qu'il y a plein de petites infractions pour trouble à l'ordre public, en fait, qui mènent à l'époque en prison. Donc, il y a encore le vagabondage et la mendicité qui alimentent une partie des flux vers la prison. Et dans la période que j'ai étudiée, dans l'entre-deux-guerres, il y a aussi tous les délits qui concernent, en fait, les étrangers. Et ça, c'est une des nouveautés, hein, c'est la criminalisation des étrangers à l'époque, le fait de ne pas avoir de papier, d'être, en fait, d'avoir un problème de statut, c'est pas forcément commettre, c'est pas forcément une action, mais c'est une question de statut et de comment on est entré sur le territoire, et ben ça peut se terminer en prison, en fait. Et ça c'est vraiment fort dans les années 30, et ça montre aussi comment la prison, elle reflète le rapport d'un État à sa population, les choix politiques aussi sur la criminalisation de telle ou telle catégorie. Et l'autre particularité forte de cette époque, si on regarde notamment les femmes, c'est qu'il y a une forte répression de l'avortement à partir du début des années 20. Et ça se voit du coup en prison. Parce que si on regarde... Donc moi, j'ai étudié particulièrement la maison centrale de Rennes. Voilà, la catégorie avortement ou complicité d'avortement est très représentée. Et là aussi, c'est encore des choix politiques et des choix de société qui vont évoluer, hein, plus tard. Mais ça montre aussi qu'il y a une grande gamme d'actions très différentes, de la petite mendicité jusqu'à l'homicide, et que la prison, elle a des fonctions très différentes entre juste le nettoyage de l'espace urbain, enlever les pauvres, les mendiants, les ivrognes, parce que c'est aussi des gens, les gens qui boivent, qui peuvent terminer en prison. Il peut y avoir toute l'escroquerie, et ça, Et on est aussi à un moment où c'est aussi les malfaiteurs, les gangsters, hein, qui cristallisent beaucoup l'imaginaire de l'entre-deux-guerres. Et bien sûr, toutes les violences aux personnes. Mais là aussi, c'est une grande gamme entre les infanticides, les homicides. Et voilà. Donc derrière la prison, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de délits et de crimes différents avec des peines très différentes. Parce qu'en fait, il y a des gens qui, je vous le disais, hein, peuvent passer 6 jours 15 jours en prison, on est dans des toutes petites peines, des choses qu'on ne connaît plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des aménagements de peine pour les plus courtes peines. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas d'aménagement de peine. Donc, les gens vont vraiment en prison pour une semaine ou pour 15 jours. Donc, en fait, la prison, elle s'intègre vraiment. Faut imaginer hein, des parcours de vie où il y a des petites semaines comme ça en prison. On sort. Donc, c'est très intégré, en fait, dans une partie des classes populaires visées par la répression. Et bien sûr, après, il y a les très longues peines, hein, jusqu'à 15 ans. On peut passer 15 ans, 20 ans en prison.
Fut un temps, pas si lointain, où on allait en prison pour avoir avorté. Et il est un temps très présent où l'on risque souvent la prison pour avoir avorté dans de nombreux pays. Alors merci hein, d'y penser lors des prochaines élections, ne pas oublier par exemple que l'extrême droite s'oppose très largement à l'avortement et aux droits des femmes en général.
Ouais, je crois que tout mon travail, ça a été de montrer, d'abord de prendre conscience moi-même et ensuite de montrer et de prouver à quel point les obsessions d'une société, ça fabrique à l'intérieur d'une prison des indisciplines, des infractions, des punitions, et que la prison, elle peut pas être pensée en dehors de la société. Donc ça, c'est vraiment cette idée de la porosité qui est une idée qu'on peut lire par ailleurs, mais qu'il faut montrer aussi et montrer où est-ce que ça peut se situer. Et donc, il y a une des manières que j'ai trouvé pour faire ça, précisément, c'était de regarder les infractions en prison. Donc cette fois-ci, pas ce qui mène aux portes des prisons, mais tout le dispositif punitif à l'intérieur des prisons, parce que en fait, quand on est prisonnier et prisonnière, on n'en a pas fini avec la punition, parce qu'il y a toute une petite répression du quotidien avec ce qu'on appelle le prétoire. Donc c'est l'endroit en fait où les détenus qui ont été signalés pour une infraction passent devant le directeur et reçoivent une sanction. Et ce prétoire, il a lieu tous les 2-3 jours. Et j'ai pu analyser, parce qu'il y avait des sources super sur la sanction, j'ai pu analyser pourquoi on est fautif. C'est le terme employé, hein, la faute. En fait, c'est là que c'est fascinant, c'est que, par exemple, à l'époque, le premier motif de sanction, c'est le bavardage en prison. Ça se comprend quand on sait que depuis 1839, il y a une règle dans les maisons centrales qui est la règle du silence. Donc, les détenus sont astreints au silence, ils n'ont pas le droit de parler, ce qui est impossible, puisque quand on est enfermé des années, on ne peut pas ne pas parler, et tout le monde le sait d'ailleurs, l'administration le sait très bien. Mais en fait, cette règle, elle produit beaucoup d'occasions de punir, parce qu'il suffit de parler en fait pour être signalé. Alors il y a sans doute une grande tolérance de l'administration qui peut pas punir tout le monde et qui n'a sans doute pas un intérêt à punir tout le monde. Mais en tout cas, s'il faut punir, c'est le motif le plus facile pour envoyer quelqu'un au prétoire. Mais là où j'ai été frappée, c'est que j'ai pu comparer deux maisons centrales, Fontevraud qui enfermait des hommes et Rennes qui enfermait des femmes. Et j'avais les listes de punition des uns et des autres. Et j'ai pu me rendre compte ainsi que les femmes étaient deux fois plus sanctionnées pour le bavardage. Je me suis dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on sanctionne plus des femmes pour avoir parlé ? Alors déjà, moi, ça m'a fait prendre conscience à quel point, dans ma vie, la question du bavardage, elle était féminine, en fait. À l'école, j'ai l'impression qu'on m'a toujours parlé de bavarde et beaucoup moins de bavard, la figure de la pipelette. Donc, je me suis dit, il y a peut-être des continuités fortes ici. Et surtout, je me suis aperçue, en fait, qu'en croisant avec d'autres sources, il y a une sorte de peur de la parole féminine. Enfin, l'idée que voilà, les femmes sont incontrôlables et que leurs paroles sont incontrôlables, elle est très forte dans l'entre-deux-guerres. Il y a des journalistes qui font des enquêtes en prison et qui décrivent des femmes qui ne peuvent pas s'arrêter de parler, ce qu'ils appellent la crise des bavardes, une sorte d'hystérie collective où il y en a une qui parle et toutes les femmes de l'atelier se mettent à parler et sont complètement inarrêtables. Et je pense que ces stéréotypes de genre très forts sur vraiment les femmes volubiles, la parole qui ne s'arrête pas, et ben ça peut expliquer pourquoi il y a beaucoup plus de répression à l'égard des paroles de femmes. Il y a d'autres domaines qui se voient très bien, c'est bien sûr toutes les infractions qui concernent le corps, et notamment comment on porte les vêtements. Donc, dans les maisons centrales, encore une fois, il y a l'obligation d'avoir un costume pénal. Donc, on porte un costume donné par l'administration. Les femmes ont un costume qui ressemble un peu à celui des religieuses. Et en fait, elles se font punir beaucoup plus que les hommes pour mal porter leur costume. Et ça veut dire quoi, mal porter leur costume ? Ça veut dire, par exemple, sur la jupe, faire des petits plis plisser sa jupe, ça c'est très mal vu, ou laisser ses cheveux dépasser d'un bonnet qui ressemble un peu à un bonnet de religieuse, qui normalement doit vraiment cacher les cheveux. Les cheveux, c'est une zone du désir, en fait, qui est perçue en tout cas comme... qui risque de susciter un désir et qui doit être cachée en plus. Et puis, je me suis aperçue que beaucoup de femmes étaient punies parce qu'elles ont des cheveux un peu frisés qui dépassent, soit elles ont mal mis leur bonnet. Et les hommes qui doivent aussi porter un calot sur la tête ne sont jamais punis pour la position de leur bonnet. Et je pense là que c'est vraiment la question de la féminité qui se joue ici, du contrôle et toutes les formes de résistance féminine, à savoir esthétiser son corps, prendre soin. On est à une époque aussi dans les années 20, les années 30, où la mode féminine est en pleine révolution. La question, bien sûr, des vêtements plus souples, des jupes plissées qui sont très à la mode, des permanentes, des boucles qui sont très, très, très à la mode dans la société. Et bah, ça peut expliquer pourquoi il y a finalement en prison une telle attention et un tel contrôle sur ces femmes qui... en vrai, ne perturbent pas forcément tout l'ordre de la prison. Mais par contre, elles font des infractions à la féminité acceptée en prison, qui doit être sur un modèle religieux, quoi.
La prison reflète les obsessions et les angoisses de l'époque, hier comme aujourd'hui. À l'époque, par exemple, l'homosexualité féminine, le lesbianisme, faisait peur à certains. On en parlait via des euphémismes, amitié malsaine, des amis, pour ne pas nommer et invisibiliser l'impensable, alors même qu'on pouvait parler en termes crus pour l'homosexualité des hommes. Mais pour les femmes, non, il fallait à tout prix contrôler la perversité sexuelle des femmes en prison comme en dehors, et donc surtout ne pas nommer. Alors en dedans, en tout cas, les sanctions restent arbitraires pour les hommes comme pour les femmes, en fonction de ce qu'on considérait être mal ou interdit, en fonction de l'âge du capitaine parfois.
Alors oui, ça c'est quelque chose qui était très important à montrer, que finalement cette question du pouvoir en prison, elle dépend de qui se trouve là, à ce moment-là, et notamment qui sont les directeurs. Les directeurs, ce sont des figures vraiment très très centrales dans l'organisation de la prison. Ce sont des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Alors, ils ne disent pas qu'ils ont un pouvoir arbitraire, ils disent qu'ils ont un pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de rendre des comptes sur leurs décisions. Mais ça, ça crée beaucoup de zones, un peu opaques, pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui fait qu'un tel se retrouve à être puni pour ça et pas pour autre chose. Et surtout, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est pour le même motif d'infraction, on va pas du tout avoir les mêmes peines en prison. Il y en a qui vont se retrouver... Alors, à l'époque, dans les maisons centrales d'hommes, il y a une punition qui s'appelle la salle de discipline et qui consiste, en fait, à marcher toute la journée en rond dans une salle où il n'y a rien sauf des plots au milieu. Et tous les trois quarts d'heure, les détenus punis doivent s'asseoir sur les plots et attendre un quart d'heure. Et ensuite, ils doivent remarcher en ronde comme ça, toute la journée. Donc c'est une punition complètement éreintante, qui n'a aucun sens, si ce n'est d'abrutir en fait, enfin, de ne rien faire et d'épuiser. Et donc on peut être puni comme ça, donc, qui est vraiment le pire qu'on puisse imaginer comme type de sanction en prison à ce moment-là. Et on peut juste avoir une amende ou alors quelques jours dans une cellule tout seul. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que pour le même motif, va avoir de la salle de discipline ou juste une privation de correspondance ou du pain sec. Et c'est là, en fait, que j'ai mesuré le poids des directeurs qui ont des pratiques, qui ont sans doute aussi des conceptions de l'autorité très variables d'un directeur à l'autre, mais qui ont aussi des contraintes propres. Par exemple, pour punir des gens, il faut des gens pour les surveiller. Par exemple, la salle de discipline, ça suppose des surveillants. Et il y a des directeurs qui expliquent qu'ils sont en manque de surveillants, donc ils ne peuvent pas ouvrir une salle de discipline. Donc peut-être qu'ils auraient peut-être aimaient avoir une salle de discipline, mais en fait, ils ont aussi d'autres contraintes matérielles et que c'est aussi ça, punir, en fait. C'est du temps, c'est des espaces, c'est des agents et que ça peut expliquer la grande variabilité des sanctions. Et c'est vrai que du coup, ça paraît arbitraire parce que tout dépend un peu de la configuration, du moment finalement dans lequel on se trouve en prison.
On a vraiment l'impression que la prison servait, et sert peut-être encore toujours, à tester ce qu'on n'ose pas tester en dehors, dans le milieu ordinaire. Et à l'époque, notamment sur la question du travail, on testait comment user et abuser des gens, comment exploiter tranquillou, jusqu'où on pouvait se permettre tout et n'importe quoi.
Alors ouais, cette idée de la prison un peu comme un laboratoire qui permettrait d'essayer de nouvelles choses, elle a été pensée, elle a été justifiée même au 19e siècle. On s'est dit, justement au moment où on s'est dit, on va peut-être pouvoir changer la société grâce à la prison, il y a eu beaucoup d'enquêteurs, des statisticiens de l'époque, des observateurs, des hygiénistes qui allaient en prison et qui voyaient cet endroit comme un peu un laboratoire social. Et alors, est-ce que la prison reste un laboratoire dans le début du XXe siècle? En fait, ce qui est intéressant, c'est que la prison, elle reste à l'écart des avancées législatives de l'époque, notamment en termes de protection des travailleurs. La prison, elle n'est pas du tout intégrée aux nouvelles lois qui encadrent le travail des enfants ou les accidents du travail, par exemple. Ça, c'est une grande loi de 1898. La prison est exclue. Sauf que, ça c'était important à montrer, la prison de l'époque, c'est un espace de travail. Pourquoi ? Parce que c'est obligatoire, parce que depuis la Révolution française, la peine de prison, elle est assortie d'une obligation de travail. Ça va ensemble, en fait. Et c'est très tardif, en fait, qu'on a abandonné l'idée du travail obligatoire en prison. C'est 1987. Et aujourd'hui, le travail est rare en prison. Mais à l'époque dans laquelle j'ai situé mes travaux, en fait, tout détenu qui arrive avec une peine de plus de 3 mois va devoir travailler. Donc, c'est un espace de travail généralisé. Et du coup, c'est aussi un espace où les hiérarchies, où les inégalités au travail sont très, très fortes. Et c'est un espace d'exploitation. Puisqu'on donne comme type de travaux essentiellement du travail manuel très peu rémunéré ou alors très fatigant, très insalubre aussi. Il y a un exemple, par exemple, à Fontevraud, c'est la production de boutons de nacre. Donc, les boutons de nacre, c'était au 19e siècle plutôt le travail des enfants. Ce qui montre aussi c'est un travail vraiment de personnes très exploitées dans la hiérarchie des travailleurs. Et en fait, produire des petits boutons de nacre, c'est respirer des poussières toute la journée. Et c'est des gens qui finissent à l'infirmerie très vite. D'ailleurs, les médecins de prison à l'époque disent « Oh là là !» En fait, ça n'a pas cette industrie. Tout le monde finit avec des problèmes pulmonaires très rapidement. Mais donc, en fait, on donne ce type de travaux. Et ça va être aussi d'autres productions. Hein, je pense à tout le travail textile chez les femmes, le travail du bois, la production des chaises, par exemple, faire des filets. Enfin, il y a beaucoup d'objets qui sont construits et qui donnent lieu, en fait, après, à des inégalités de salaire extrêmement grandes au sein de la prison. Et là où peut-être la prison est un des laboratoires assez intéressants, c'est qu'elle a mis en place un dispositif, ça c'est depuis le milieu du 19e siècle, où en fait on est payé en prison. Alors c'est pas un travail gratuit, c'est pas de l'esclavage, hein. c'est un travail qui est payé mais très faiblement rémunéré. Et surtout, la part du salaire que les détenus touchent, elle est variable selon qui on est, en fait, qui on est comme détenu, quelle est la peine qu'on a eue, et aussi selon le comportement. Et donc, en fait, le travail, c'est aussi une variable comme ça de discipline, en fait. Et on va donner plus à ceux qu'on considère être de bons détenus, et on peut, en fait, retirer du salaire pour des questions purement disciplinaires à des détenus qui ne se conforment pas aux règles. Et donc là, on voit que la prison, elle a à la fois une logique très économique et aussi une logique disciplinaire en même temps. Et c'est ça qui fait que c'est un espace très original du point de vue de l'histoire du travail.
L'atelier de travail, c'est un espace collectif. C'est un lieu de trafic. C'est aussi un espace de sociabilité. C'est l'espace des ressources qui vont générer plein de formes d'échanges, car on a accès à des outils, à de la nourriture, à des matériaux, à des tas de choses. C'est aussi un lieu refuge pour certains ou certaines qui sont, par exemple, maltraités par d'autres prisonniers. Ça peut être un lieu échappatoire. Et puis, c'est le lieu où l'on parle, où l'on fait du collectif, alors qu'ailleurs, le silence et l'individuel sont la norme. Serge Victor, qui était un prisonnier anarchiste, disait que ces ateliers sont, pour les prisonniers, une chance de parler entre eux.
D'où viennent ces flashs qui me projettent dans le pire alors que tout va bien? D'où viennent ces pensées qui me font trébucher alors qu'il n'y a rien? Celle qui me dit d'avance que c'est raté, qui me dit que ça vaut même pas le coup d'essayer.
Ces pensées qui lui viennent, toutes ces pensées qui me viennent, d'où viennent ces pensées qui me viennent, toutes ces pensées qui lui viennent,
d'où viennent ces schémas que je reproduis sans réfléchir, toutes ces pensées qui me traversent et qui sont pas à moi, que même les gens que j'aime ne me comprennent pas, qu'à pleurer comme ça tout le temps, ça les dégoûtera. Que je ne mérite pas leur amour tellement je suis orgueilleuse, que c'est ça qui me rend monstrueuse.
D'où viennent ces pensées qui lui viennent, toutes ces pensées qui me viennent, d'où viennent ces pensées qui me viennent, toutes ces pensées qui lui viennent.
Attends, mais pourquoi je pourrais pas écouter ma boussole, rien qu'à moi qui me parle tout bas. Celle qui dit que je suis drôle dans mon désespoir, que c'est ça que les gens veulent et ont besoin de voir, que tous ces frissons dans mon dos c'est pas le froid, mais mes ancêtres qui se collent sur moi. Prends garde aux charlatans qui se disent chaman à tout bout de champ.
Que je suis à la douceur lancinante avec ardeur, que je frôle un peu l'hospice à crier sur l'injustice, que perfection rime illusion avec erreur sublimation. On trouve la grâce, on trouve sa place et la beauté sauvera le monde et le monde sauvera la beauté. Et ma colère c'est ma façon ratée d'aimer qui me dit tu t'es trompé, mais t'inquiète tout le monde se trompe.
Ces pensées qui lui viennent, toutes ces pensées qui me viennent, d'où viennent ces pensées qui me viennent, toutes ces pensées qui lui viennent.
La petite blanc dans du poil sous les bras.
Normalement, on ne mélange pas les serviettes et les torchons, le civil et le militaire. Et pourtant, pendant la guerre, la première ici, étudiée par Elsa Génard, les frontières ne sont plus très claires. La guerre est aussi un bon exemple pour montrer les liens poreux qui ont toujours existé entre le dedans et le dehors.
C'était important d'étudier les prisons en guerre parce que d'abord, vraiment, quand j'ai commencé mon travail, il y avait pas du tout de travaux sur les prisons en temps de guerre. Et je trouvais ça très bizarre parce que on dit que la Première Guerre mondiale est une guerre totale et qu'elle a mobilisé en fait toute la société. Et j'avais du mal à imaginer que les prisons ne soient pas elles-mêmes des espaces marqués par la guerre. Et bien sûr, en faisant des enquêtes précises sur les établissements, j'ai vu les effets de la guerre. D'abord, c'est qu'il y a des gens différents qui arrivent en prison, notamment les militaires condamnés par la justice militaire pour des mutineries, insubordination, désertion beaucoup, ou intelligence avec l'ennemi parfois, et qui ont des peines à purger en temps de guerre. Sauf que l'armée n'a pas assez de lieux pour enfermer ses propres soldats. C'est un moment où, bien sûr, on a une armée de mobilisation nationale. Tout le monde a été appelé. Donc, il faut énormément de lieux si on veut enfermer ceux qui ont une condamnation. Et donc, en fait, l'armée va demander aux prisons qui existent depuis longtemps d'accueillir des condamnés militaires qui, normalement, ne doivent pas être dans des prisons civiles. Normalement, l'armée a depuis le 19e siècle, ses propres prisons. Et on ne mélange pas, en fait, les condamnés entre eux. Donc, en fait, la guerre, c'est un moment où les frontières, comme ça, de statut vont disparaître temporairement. Et ça pose des questions d'autorité intéressantes. Finalement, est-ce qu'on a la même expérience si on est un militaire ou si on est un civil en prison? Qu'est-ce que ça fait à des gens qui viennent du front d'arriver dans cet espace-là, qui est un espace de stigmates, c'est un espace de honte sociale, en fait, dans un moment où ce qu'il faut faire quand on est un homme, c'est la guerre. C'est ça qui est socialement accepté. Ça pose une question nouvelle, qui est, est-ce que ce contexte exceptionnel et ce moment où l'armée a tant besoin d'hommes à envoyer sur le front, est-ce que ça crée des opportunités de sortie? Est-ce que certains détenus ont profité de la guerre pour, en fait, sortir de la prison plus rapidement? Et inversement, on peut se poser l'autre question, est-ce que la prison, c'est pas une bonne manière d'échapper à la guerre si on ne veut pas rejoindre le front? Et je trouve que c'est du coup un moment très intéressant à poser, de poser la question à hauteur des individus, de savoir est-ce que la guerre, ça ouvre des possibles ou pas. Et ce que j'ai trouvé dans les archives, c'est justement qu'il y a des comportements différents face à la guerre. Il y a des procédures d'engagement volontaire, donc de détenus qui vont vouloir rejoindre le front avec cette idée d'un rachat. On va se racheter. La guerre, elle permet peut-être de se racheter, de retrouver une place. Et en fait, briller sous les drapeaux, c'est aussi... C'est bien pour une trajectoire qui a connu quelques heures auparavant. Mais il y a aussi des dossiers de détenus où il n'y a pas du tout ces lettres d'engagement, voire parfois, dans quelques cas, j'ai trouvé des lettres de détenus qui ont été censurées, qui expliquent qu'ils espèrent bien que la guerre va se terminer avant leur sortie, parce que voilà, si on peut éviter d'aller au front, ce serait peut-être bien quand même. Donc en fait, ça montre que là aussi, la diversité des comportements, elle doit être prise en compte, et que la guerre, c'est un moment, oui, de grande porosité avec l'extérieur, où en fait, les logiques de l'extérieur transforment un petit peu cet espace carcéral.
Mais qui sont finalement les prisonniers et les prisonnières à cette époque-là ?
C'est essentiellement des gens qui appartiennent aux classes populaires qui se retrouvent en prison. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on n'a pas forcément dit beaucoup de choses. C'est la question qui se pose, c'est aussi quelle classe populaire on peut voir en prison. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette période, c'est que c'est d'abord des gens qui tous travaillent, tous déclarent une profession. Donc ce sont vraiment des classes laborieuses, on pourrait dire, qui vraiment travaillent. Alors, dans des formes de précarité, parfois, il y a beaucoup de travailleurs très précaires, donc ce qu'on appelle des journaliers, qui travaillent quelques jours, quelques semaines, quelques mois sur des exploitations agricoles, sur des chantiers, enfin, tous les travaux manuels, souvent les plus pénibles, et avec un fort turnover, comme ça, avec beaucoup de mobilité. Mais il y a aussi d'autres catégories qu'on peut voir en prison, d'ouvriers plus qualifiés, plus insérés aussi. C'est quelque chose qu'on peut mesurer, par exemple, en regardant les mariages, ceux qui ont des enfants, où on habite, comparer par exemple ceux qui n'ont pas d'adresse fixe et ceux qui ont des adresses. Et là, on voit qu'il y a des gens qui sont socialement, qui ont les indices en tout cas d'une plus grande insertion sociale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette insertion sociale, elle devient une ressource possible ensuite en prison. D'abord parce que l'administration est moins suspecte à l'égard des gens les plus insérés, donc qui vont pouvoir avoir un réseau familial, par exemple, ou alors qui ont des professions plus qualifiées, soit manuelles, soit de commerce, par exemple. Il y a une partie de la population, alors c'est une minorité, autour de 15%, mais ce sont des professions commerçantes, par exemple. Et ça va être des ressources qu'on va pouvoir activer après, par exemple, avoir des visites, avoir des parloirs, ou alors accélérer sa sortie en montrant qu'on peut avoir un travail chez un tel. Donc voilà, tout ce petit réseau social, en fait, ça devient des manières aussi de distinguer les gens à l'intérieur de la prison. Et ça explique qu'on n'est pas... On n'est pas égal face à la peine, même si on est condamné au même moment et qu'on se retrouve au même endroit. Et donc voilà, cette diversité des classes populaires, je trouve que c'est important d'en rendre compte parce que, en fait, on a trop vite fait de dire « bon, bah, c'est des gens marginaux ». En fait, la marge, elle est très, très large, elle recouvre des situations différentes et ce ne sont pas des gens forcément en rupture de banc, comme on pourrait le penser.
Au début du XXe siècle, qui vous êtes impacte beaucoup sur votre expérience carcérale et même sur la durée de la peine. Alors tout n'a pas totalement changé aujourd'hui, hein, c'est vrai. Mais est-ce que regarder en arrière peut nous apprendre à repenser ce qui se joue aujourd'hui dans les prisons ? Comment est-ce qu'on peut se servir de ce travail minutieux d'analyse des registres d'écrou de l'époque pour comprendre le présent et pourquoi pas le changer ?
D'abord, j'aimerais bien que l'administration pénitentiaire s'intéresse à cette histoire longue. Alors, il y a des gens à l'intérieur de l'administration qui s'y intéressent, ça je le sais. Hein. Mais je pense que, de manière plus large, l'histoire de la prison par les gens aujourd'hui qui y travaillent, elle n'est pas forcément très connue. Et ça mérite, je pense, d'être connue parce qu'en fait, les pratiques pénitentiaires s'inscrivent dans un temps long. Par exemple, moi, quand je parle de toutes les petites sanctions là, que j'ai décrites, quand j'en parle à des gens qui travaillent en prison aujourd'hui, ils sont fascinés parce qu'ils ont encore le prétoire. Ils ont encore plein de petites sanctions à l'intérieur de la prison. Ils se disent « Ah, mais en fait, ça dure depuis très longtemps. » Et peut-être de réfléchir à ce qu'on pourrait dire l'omniprésence de la punition qui perdure et de voir l'inertie, je pense que ça peut nous interpeller et ça peut poser des questions pour les professionnels d'aujourd'hui. Donc ça j'aimerais bien que cette question, elle soit pas pensée uniquement dans le très contemporain et qu'on voit en fait que peut-être que ce qui est difficile aujourd'hui à changer en prison, c'est précisément parce que c'est une histoire qui dure et c'est des pratiques qui se répètent, des dispositifs qui perdurent sans fondamentalement se transformer. Donc cette question de l'inertie, moi, elle me paraît importante parce que j'essaye de la documenter. L'autre chose, moi, que j'aimerais bien que les gens vous trouvent dans ce travail, peut-être, c'est de penser à une période où il n'y avait pas trop de monde en prison et où pourtant les mêmes problèmes d'hygiène, de salubrité, d'insertion se posaient quand même. J'ai peur qu'on pense aujourd'hui que si on règle le problème de la surpopulation, on a réglé le problème des prisons. Alors qu'en fait, non, j'ai l'impression qu'il y a une grande difficulté à penser aussi la prison dans son ensemble, dans toutes ses composantes, et c'est pas qu'une question de nombre. Et même à une période où finalement, c'est pas la place qui manque, eh ben, c'est une institution qui est délaissés, sous-financés. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que c'est encore un choix politique et que il n'y a pas une solution facile. Construire des nouvelles prisons ou juste limiter le nombre d'entrées en prison, ça ne va pas régler tous les aspects des problèmes de la prison aujourd'hui. Donc ça, j'aimerais bien que ce soit plus présent et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, hein, cette histoire de sous-peuplement et je trouve que c'est interpellant, quoi.
Avant de se quitter, vous connaissez la règle, hein, y a de la routine dans du poil sous les bras, un peu comme en prison. Enfin, quand même pas tout à fait comme en prison. Mais évidemment, j'ai demandé à Elsa Génard ce qu'elle pensait de ses poils, quel rapport elle avait avec ses poils.
Laisser pousser mes poils sous les bras, ça je trouve que c'est une bonne idée et je le fais maintenant. Ça c'est nouveau. Parler de mes poils, c'est pas un sujet évident parce que je pense que je préférerais parler des poils des autres. Mais je dirais que C'est une question que je trouve très intéressante pour avoir suivi un peu le mouvement de libération des poils sous les bras. Je trouve que c'est un bon étendard de ma génération, peut-être, et des autres générations, mais c'est quelque chose que je trouve libérateur. Mais en même temps, je pense que c'est un des sujets où les injonctions restent fortes et que ça reste un peu un petit territoire du combat féministe et de libération des femmes. Donc voilà, pour moi, les poils, c'est un endroit où peut-être des micro-luttes peuvent se jouer. Mais je suis aussi quelqu'un qui guette mes cheveux blancs parce que je viens d'avoir 36 ans et que je me dis, ah, ça y est, ça va arriver. Et je crois que j'en ai vu un pour mon anniversaire. Donc je suis pas sortie de cette affaire.
Du poil sous les bras, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver cette émission en podcast, bien sûr. Cette émission et les 79e autres émissions déjà diffusées de Du poil sous les bras. À très bientôt sur les ondes.